Quand on est biologiste francophone et qu'on enseigne l'évolution, on a des livres de chevet un petit peu particuliers. 4 livres qui pèsent chacun près d'un kilogramme. 2 volumes de la classification phylogénétique du vivant, le guide critique de l'évolution, et enfin, comprendre et enseigner la classification du vivant, rédigé en partie par un certain Guillaume Lecointre. Autant vous dire que je suis plus que ravi d'accueillir le professeur Lecointre au micro de Podcast Science pour la sortie de son dernier livre, Darwin Soit Loué, beaucoup plus léger, petit traité d'anatomie superflue. Nous sommes le mercredi 16 octobre 2024 et c'est l'émission 516 de Podcast Science. Bonne écoute! Et ce soir, autour de notre table virtuelle, nous avons depuis l'Alsace Pascal.
Salut tout le monde.
Depuis sa Normandie natale, Cléora.
Salut à tous.
Depuis Paris, nous avons Gaël.
Bonsoir à tous.
Et bien entendu, moi, votre hôte Topo, qui se jouerait le rôle de maître de cérémonie pour cette émission. Ce soir, nous accueillons Guillaume Lecointre, célèbre zoologiste et professeur du Muséum National d'Histoire Naturelle en systématique. Bonsoir.
Bonsoir.
Guillaume Lecointre vient nous parler de son dernier livre paru le 6 septembre aux éditions Delachaux et Nisley, Petit traité d'anatomie superflue. C'est un ouvrage splendidement illustré par Thomas Essig, que nous saluons au passage, d'une part pour lui souhaiter un joyeux anniversaire Thomas, et d'autre part parce qu'il fait partie de la communauté d'illustration Strip Science, que nous ne cessons de solliciter pour nos fameuses émissions radio-dessinées. Et pour commencer cette interview du professeur Lecointre, je cède la parole à mon collègue Gaël.
La première question que j'avais pour vous, c'est d'où vous est venue cette idée de parler de l'inutilité dans le vivant et dans notre corps?
Déjà, bon anniversaire à Thomas, et bien content d'être avec vous. L'idée de départ, c'est ce constat que nous vivons, comment dire, dans une culture où on promeut l'efficacité, on promeut l'utilité. Et le corps humain est vu comme un corps fonctionnel. Quand ça marche pas, on va chez le médecin, il faut que ça répare, il faut que ce soit réparé. Et en quelque sorte, la fonctionnalité prend tout le paysage, tout le regard que nous portons sur notre propre corps. Et ça nous fait oublier du fait que le corps peut avoir une histoire. Alors, le corps tout fonctionnel, on viendrait presque à nous faire oublier que nous partageons énormément de choses avec nos espèces voisines et que ces choses s'enracinent dans l'histoire à coups de millions d'années d'ancienneté. L'inutile, pourquoi l'inutile? Parce que quand on peut constater qu'un organe est inutile ou quand on même s'interroge sur sa fonction, tout à coup, il n'y a plus cette fonction pour occulter l'histoire, et on peut vraiment parler d'histoire. Donc, parler de l'inutile, c'est s'offrir le moyen d'un voyage dans l'évolution, sans être omnibulé par la fonctionnalité. Le fait qu'elle ne soit plus là nous permet de voir que notre corps a une histoire. D'ailleurs, le sous-titre du livre, c'est « Notre corps... »
L'évolution à travers notre corps.
Vu à travers notre corps, oui, c'est ça.
D'ailleurs, on l'a remarqué dans votre première remarque, vous évoquez dans le livre une métaphore qui semble vous agacer, celle de l'humain-machine, l'humain qui fonctionne. Vous semblez avoir pisté son usage intensif par un médecin allemand du nom de Fritz Kahn. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur l'origine de cette idée et pourquoi elle est erronée?
Oh, l'idée remonte à loin, elle remonte au moins à Descartes, voire à Léonard de Vinci. Mais Fritz Kahn a vraiment été le promoteur du corps-machine au XXe siècle. C'est un médecin allemand qui a inondé les médias de dessins métaphoriques où le corps humain est expliqué à travers une métaphore de machine. L'œsophage est un ascenseur qui emmène les aliments dans l'estomac. L'estomac, c'est un haut fourneau. Le cerveau, c'est un ordinateur. Enfin voilà, le corps expliqué à coups de machines. Et évidemment, la métaphore est fausse. La raison est la suivante, c'est que une machine est construite par un concepteur, et ce concepteur n'a pas gardé dans la construction d'un modèle à un temps donné, il n'a pas gardé les étapes antérieures qui ne seraient pas fonctionnelles. Il n'y a pas de traces d'étapes antérieures non fonctionnelles dans une machine. Les traces antérieures ne sont gardées que si elles ont été fonctionnelles et elles continuent à l'être. Or, les corps vivants, ça n'est pas ça du tout, parce que les corps vivants, on doit leur construction à une évolution dans laquelle il n'y a pas de concepteur. Et comme cette évolution, elle est erratique sur le plan historique, elle est contingente, on va conserver des étapes qui ne sont plus utiles, elles ne disparaissent pas tout de suite, ça prend du temps, et on va conserver des étapes, il va y avoir de l'inutile en raison de l'histoire dans le corps vivant, alors que dans les machines, si ce n'est pas utile, c'est immédiatement supprimé. Donc il y a une trajectoire historique qui s'inscrit dans les corps, à travers l'inutile, là c'est bien visible, à travers l'utile aussi, il faut quand même que je précise que les organes qui sont utiles ont aussi une histoire, bien sûr. Notre colonne vertébrale, vous ne pourriez pas vous tenir debout sans elle, et elle a bien une histoire, il n'y a pas de souci avec ça. Seulement on en parle peu parce que c'est sa fonctionnalité qui prend le dessus, comme je l'ai déjà dit. Voilà, donc la machine n'est pas une bonne métaphore pour un corps biologique, pour la raison que j'ai expliquée. Et d'ailleurs, Fritz Kahn, un ami lui avait dit, tu sais, tes métaphores, elles sont complètement fausses, en fait. Un estomac, c'est pas un haut fourneau, l'œsophage, c'est pas un ascenseur. Enfin, sur le plan physique, on peut démontrer que ces métaphores sont erronées. Et Fritz Kahn aurait répondu, oui, d'accord, c'est peut-être faux, mais ça aide à comprendre. Bon, cette réponse, elle est amusante parce que, justement, non. Aujourd'hui, on comprend que ça n'aide plus à comprendre.
Dans votre ouvrage, vous parlez des contraintes historiques, en prenant l'exemple de Paris et de New York. Comment ces contraintes historiques-là, entre guillemets, s'appliquent-elles dans le cadre du corps humain? Et quels impacts ça a sur l'humanité aujourd'hui quand on regarde ce corps humain?
Oui, là, pour le coup, j'utilise en effet une autre métaphore pour expliquer ce qu'on appelle la contrainte historique. Quand on y reviendra certainement à la fin de l'émission, mais quand on regarde un corps biologique, il y a trois grands pôles explicatifs qu'il faut arriver à prendre en compte. Il y a le pôle fonctionnel, on l'a déjà dit. Les choses sont là parce qu'elles marchent. La fonction, qu'est-ce que c'est? La fonction, c'est la condition de performance qui a fait que la structure, votre colonne vertébrale par exemple, s'est maintenue au cours des générations chez des espèces ancestrales. En quelque sorte, la fonction, c'est la condition de la pérennité. C'est là et ça se transmet parce que ça a fait son office en quelque sorte. Ça, c'est le pôle fonctionnel. Il y a la contrainte historique. La contrainte historique, elle est légèrement différente. C'est que un corps biologique se modifie peu à peu à travers des populations qui font des petits. Il y a un temps de génération entre les populations, d'un temps T vers un temps T plus 1. Ça prend du temps, tout ça, en fait. Et les organes ne se modifient pas, ou même les gènes, d'ailleurs, ne se modifient pas si vite. Il y a différents tempos, bien sûr, de modification, mais tout ça fait que dans un corps, il y a toujours une partie des choses qui viennent d'un héritage assez lointain. Et on ne fait pas un chat à partir d'un ver de terre. Je veux dire par là que il pèse sur les populations à un temps T le poids de l'histoire, en fait, il pèse ce qu'ont été les générations d'avant. Et dans un contexte nouveau, quand je dis que ça pèse, c'est-à-dire que dans un contexte nouveau, ce poids, ça peut ne plus être ce qu'il y a de plus optimal dans le temps présent. Mais c'est toujours là parce que c'est une contrainte. Alors, je prenais la métaphore des villes. Si on voulait une ville, on peut comparer le tracé vier de Paris et de New York. Si on veut une ville complètement fonctionnelle, on a New York avec un tracé de rue perpendiculaire, avec des numérotations de rue faciles à retenir. C'est tout droit, il y a des feux rouges. D'ailleurs, les habitations, ils appellent ça des blocks. Les habitations sont réunies en blocks, c'est-à-dire des carrés sur la carte. Hein. Donc c'est très facile à lire et c'est très facile à employer. Les rues sont larges en plus. On pourrait dire que il ne pèse pas sur la circulation routière à New York une grosse contrainte historique. Pourquoi ? Parce que le tracé Vierre a été construit principalement au moment, un peu avant la création de la voiture, mais beaucoup au moment de la création de la voiture. Mmh. Et donc, ça pèse peu. Alors que sur Paris, ou sur Naples, enfin sur les vieilles villes européennes, la voiture est arrivée bien après le développement des villes. Et le tracé Vierre des villes, le tracé des rues, il fait des méandres. Il est sinueux, il est tortueux ce tracé, il y a des embouteillages, il a fallu faire des travaux d'importance et on peut pas faire de travaux de trop grande importance dans des villes trop anciennes parce qu'il y a énormément de bâtiments patrimoniaux qu'on peut pas détruire. Ouais. Et donc ces bâtiments patrimoniaux sont des poids historiques justement vis-à-vis de la fonctionnalité de la circulation routière. Une fois que je vous ai dit ça, je ne suis pas automobiliste, hein, mais c'est juste pour faire cette métaphore que évidemment si la circulation routière dans Paris, dans Naples ou dans Rome, eh bien, elle est largement contrainte par le poids de l'histoire. Dans un corps, c'est pareil. Dans un corps, on ne fait pas table rase. On construit toujours à partir de l'ancien, en fait.
C'est ce que j'allais dire. En fait, ça me fait remarquer que c'est aussi une question de perspective, parce que d'un point de vue de la circulation, par exemple, des vélos, c'est probablement des différentes conclusions qu'on aurait.
Oui, voilà. Ouais. Un exemple de contrainte historique dans le corps humain, à l'image de ce qui peut se passer pour le plan des rues des villes, c'est par exemple le fait que l'espèce humaine est l'espèce dont l'accouchement, la parturition, comme on dit, est la plus difficile. Nous sommes l'espèce dans laquelle les femelles, en l'occurrence les femmes, meurent le plus de leur accouchement. Et ça, c'est un problème qu'on a appelé le complexe obstétrique. Depuis 2 millions d'années, la taille de l'encéphale chez l'adulte ne cesse d'augmenter, mais la taille de l'encéphale augmente pour des raisons probablement adaptatives, pour des raisons fonctionnelles, mais en ignorant, entre guillemets, en ignorant une contrainte historique qui est la bipédie permanente, qui, elle, est née entre moins 5 et moins 6 millions d'années. Et donc, le lignage des anthropoïdes auxquels nous appartenons, il s'est redressé et a marché debout, en quelque sorte. Enfin, disons qu'il y a la marche bipède permanente qui est acquise il y a à peu près 6,8 millions d'années, mais chez des primates qui ont un volume céphalique chez l'adulte qui ne dépasse pas 500 cm3. Donc là, on marche debout, d'accord, mais la tête reste petite, la parturition pose pas trop de problèmes à ce moment-là. Mais depuis 2 millions d'années, la tête ne cesse de grossir. Et le bassin, lui, par contre, le bassin féminin, en partie inférieur, il peut pas s'agrandir plus qu'il n'est, puisque ce bassin porte quand même toute la masse du tronc, des bras et de la tête en situation bipède. Et donc là, on a une contrainte physique à la fois, mais qui correspond à une ancienne contrainte historique, donc, parce qu'elle date de 4 millions d'années avant. Et bah, on paye, voilà, quand je dis que c'est une contrainte, bah, ça se paye avec un certain prix. Nous sommes l'espèce de mammifères chez lesquels les femelles meurent le plus de leur parturition. On s'en rend moins compte aujourd'hui parce que nous avons l'aide de l'obstétrique, mais rappelez-vous que si il y a quelques siècles, notamment au XVIIIe siècle, il y avait tellement de morts en couche que Louis XV s'était inquiété de l'impact sanitaire de l'accouchement et avait demandé à Angélique du Coudray, accoucheuse officielle du roi et de l'hôpital de l'Hôtel-Dieu, de faire un tour de France pour former des matrones accoucheuses dans les villages pour lutter contre la mortalité en couche chez les femmes à l'époque.
Ouais, je crois en plus avoir déjà vu justement des modèles en chiffon pour aider les sages-femmes à apprendre la position du bébé par rapport à... Ouais.
Tout à fait. Le travail d'Angélique du Coudray est remarquable pour cela, c'est que elle apprenait en stage, ça s'appelait pas des stages, mais c'était pareil. Mmh. Elle apprenait aux femmes accoucheuses les gestes qu'il fallait faire sur des modèles tissés des modèles comme des poupées en quelque sorte, des bassins de femmes de taille réelle avec les organes à l'intérieur qui eux aussi étaient cousus et tissés. Ce qui fait qu'on commençait à apprendre les gestes en quelque sorte sur un modèle de corps, oui.
Par contre, vous faites dans votre livre une révélation importante. Alors, on y apprend que vous êtes un monstre. Vous avez en effet une troisième molaire couchée dans la mandibule de votre mâchoire. Alors, déjà, comment vous avez découvert votre nature monstrueuse et qu'est-ce que pourraient faire nos auditrices et auditeurs pour découvrir s'ils sont des monstres aussi?
Mais il n'y a rien de mieux qu'une radiographie, hein, une bonne radiographie. Alors, pourquoi est-ce que j'utilise le mot monstre? Parce que dans le livre, on parle, il y a toujours un petit peu de monstre en vous. C'est cette idée que nos corps sont variables, en fait. Et ça, c'est une notion qu'il faut vraiment apporter rapidement, c'est que la biologie, c'est la science de la variation. Nos corps sont variables, seulement la médecine va avoir tendance à normer le corps. Normer, ça veut dire en quelque sorte qualifier d'anormal les variations asymptomatiques. Asymptomatiques, ça veut dire des variations qui ne nous font aucun mal, qui ne nous portent pas préjudice. Et donc, ces variations, elles sont pourtant bien là. Alors déjà, il n'y a pas deux personnes qui ont le même visage, c'est déjà une expression de la variation, mais même dans la construction de l'anatomie, il y a des variations qu'on n'apprend pas vraiment. Enfin, on l'apprend, mais on l'évacue assez vite dans les études de médecine. Alors, la mandibule couchée la troisième molaire couchée dans la mandibule, ça, c'est quelque chose qui a été révélé par un check-up. Comme j'ai fait mon terrain de zoologiste en Antarctique, à chaque fois qu'on part en Antarctique, on nous demande de faire des contrôles sanitaires, des contrôles de santé, et donc l'examen dentaire est obligatoire. Et donc à l'occasion d'un examen dentaire, une radiographie de mes dents a révélé cette molaire couchée. Alors cette molaire couchée, elle fait partie des variations qui sont dues justement au poids de l'histoire, puisque, comme vous le savez, vous le savez peut-être pas, j'en sais rien en tout cas, dans l'évolution du crâne du genre Homo, depuis 2 millions d'années, on a un redressement vertical de la face, un recul de la mandibule, on a aussi une diminution du volume des molaires, mais cette diminution du volume des molaires, tout se passe comme si elle n'allait pas assez vite par rapport à la réduction de la taille de la mandibule, et c'est vrai que la troisième molaire tout au fond de la mâchoire inférieure, la troisième molaire, elle va buter sur l'angle que forme le processus ascendant du dentaire par rapport à avec l'angle qu'il fait avec le reste du dentaire. Enfin, il y a un angle qui a tendance à devenir plus étroit et la molaire a du mal à se développer tout au fond de la mâchoire inférieure.
Donc, pour clarifier, cette troisième molaire couchée dont on parle, c'est bien celle qu'on surnomme la dent de sagesse, c'est ça?
Tout à fait, c'est les dents de sagesse, oui.
Et Gaël, en parlant de variation, tu avais peut-être une remarque à faire?
Oui, effectivement, j'ai été surpris par... dans le livre, vous expliquez que chez certains poissons, un tiers, voire la moitié des œufs conduisent à des développements aberrants. Et je me suis demandé, en fait, à quel point, du coup, ça pouvait avoir un coût évolutif et énergétique énorme de pondre tant d'œufs et donc d'avoir tant d'embryons qui au final vont pas pouvoir amener à des poissons viables.
Alors oui, on a employé ici le terme de coût, et en effet, les sciences de l'évolution au XXe siècle ont adopté le jargon de l'économie en quelque sorte. Enfin, un petit peu au XIXe déjà, mais surtout au XXe, on parle de coût, de bénéfices, d'investissement. Et je ne suis pas sûr que ce soit des métaphores vraiment adaptées pour décrire le vivant, parce que le vivant, il est avant tout dispendieux. Les êtres vivants arrivent à se maintenir dans les milieux que nous voyons aujourd'hui parce que justement les générations antérieures ont été dépensières, excusez-moi du terme, mais c'est-à-dire que on a fait beaucoup plus de petits dans le passé que le milieu ne pouvait en soutenir. Et ça, c'est vrai pour énormément d'organismes, dans énormément de milieux. Et donc, il y a en effet une dépense, il y a une dépense phénoménale d'énergie. Supposons que cette dépense d'énergie soit insuffisante, dans un milieu donné, le lignage risque de ne pas se maintenir. Tout simplement, nous ne voyons émerger aujourd'hui que ceux des lignages que ce que celle des espèces dont les lignages antérieurs ont été dépensiers, en quelque sorte. Darwin avait déjà vu en 1859, il avait attribué aux espèces la qualité potentielle de pullulation, c'est-à-dire que les êtres vivants ont tous, enfin, les populations d'êtres vivants ont toutes une propension à la pullulation, et c'est comme ça qu'elles se maintiennent. La mort est la règle, la survie est l'exception, en quelque sorte. Alors, ces poissons dont on parle, là, bah oui, si on laisse une ponte de poissons en aquarium se développer, souvent, chez les poissons osseux, les pontes, c'est plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'œufs. Chez les poissons marins, parfois, on atteint des millions. En gros, 30% de ces œufs ne sont pas viables. C'est-à-dire que il y a bien des embryons qui démarrent un développement dans l'œuf, mais ces développements partent de travers. Et ça nous illustre cette idée que le développement embryonnaire, lui aussi, il est source de variation. J'entends par là qu'il n'y a pas véritablement un programme qui emmène forcément l'embryon vers un destin d'adulte. Il y a des impulsions. Ces impulsions, elles subissent les contraintes de l'environnement. Ça peut partir, un micro-événement dans le développement peut faire partir le système vers un aboutissement non viable. Mmh. Et oui, un tiers, ça paraît beaucoup, mais ça nous dit que le développement, c'est une aventure. Et quand je vous dis ça, c'est pas nouveau, hein, même si c'est mieux documenté aujourd'hui sur le plan de la biologie, à la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle, il y avait un débat entre les accidentalistes et les préformationnistes. Comment se fait-il que les enfants ressemblent à leurs parents, que les chats fassent des chats et que les chiens fassent des chiens? Il y a des gens qui pensaient que l'être vivant était déjà tout formé dans le gamète. En 1894, on avait dessiné un homoncule dans un spermatozoïde en pensant que le petit humain à venir était tout formé déjà dans le spermatozoïde. Il y en avait d'autres qui pensaient que le corps était tout formé dans l'ovule. Et puis il y avait s'opposait aux deux précédents le troisième camp des accidentalistes qui eux pensaient que rien n'était joué d'avance, que le développement embryonnaire, c'était en quelque sorte une aventure susceptible de subir des accidents. D'ailleurs, ils expliquaient mieux les monstres, ce qu'on appelait à l'époque des monstres entre guillemets, c'est-à-dire les malformations qui à l'époque naissaient, hein, et il fallait les interpréter, ces malformations. Voilà, le développement, c'est dispendieux, ça part dans tous les sens, et il ne survit que ce qui est, combinaison d'organes à peu près fonctionnels ensemble. Ouais.
En parlant de combinaison, la première figure de l'ouvrage est assez frappante, et c'est dans une partie qui est intitulée « La mosaïque temporelle humaine ». Elle figure la silhouette d'une femme nue avec 29 légendes où sont figurés les âges, en millions d'années de différentes structures. On y apprend alors que la tête date de 560 millions d'années, mais le cou de 370, que la glande mammaire date de 220 millions d'années, mais que le poil est plus vieux, à 265 millions d'années, alors que le mamelon est plus jeune, à 130 millions d'années. Ou encore que les membres antérieurs seraient apparus il y a 450 millions d'années, avant les appendices paires postérieurs, vieux de 420 millions d'années. Voilà. Au dehors du fait qu'on comprend très très bien que c'est une mosaïque, comment on connaît tous ces âges?
Oui, ça donne le vertige, hein, bien sûr. mais justement, c'est comme je le disais tout à l'heure, l'histoire du corps humain, on peut la raconter sur les organes utiles, et elle apparaît très fortement sur les organes inutiles. Ce qui n'empêche pas, bien sûr, comme je viens de le dire, de la raconter sur les organes utiles. Là, on vient de citer toute une série d'organes qui sont de toute évidence utiles, et le fait de les dater montre en effet qu'ils ont une histoire. Comment fait-on pour dater tout ça? Eh bien, c'est le travail de la phylogénie, c'est-à-dire la construction d'un arbre qui va reconstituer les degrés relatifs de parenté entre les espèces. C'est mon métier, en l'occurrence, la phylogénie.
D'accord.
On compare l'anatomie comparée, c'est une science déjà ancienne, hein. On compare les structures des êtres vivants entre espèces, Mais en phylogénie, on ne fait pas que les comparer, on construit une hiérarchie temporelle dans l'acquisition des organes, puisque les espèces les partagent, ces organes. Je partage un numérus avec une grenouille, je partage une colonne vertébrale avec le tyrannosaure, je partage une tête avec une fourmi. Donc en organisant la cohérence dans le temps des partages, on arrive à ordonner l'apparition de ce que nous partageons à travers le temps, mettre une chronologie relative des apparitions. Alors ça, c'est l'anatomie comparée alliée à la phylogénie qui permet de le faire, un arbre qui raconte l'ordre relatif d'apparition des organes. Mais pour dater, on peut céder des fossiles.
D'accord.
Là, évidemment, l'anatomie comparée s'applique tout à fait, puisque les fossiles, c'est une collection de caractères disparus de la nature actuelle, mais qui ont existé dans un temps qu'on peut documenter. Par exemple, on connaît l'humérus depuis 370 millions d'années aussi grâce à des fossiles. Enfin, on peut le documenter, cet humérus à 370 millions d'années. Voilà. Et puis, il y a aussi, pour terminer, la comparaison du matériel génétique.
D'accord.
Alors, on a des grandes molécules dans chacune de nos cellules. L'acide désoxyribonucléique, le fameux ADN, qui porte comme des espèces de phrases, hein, ce qu'on appelle des séquences. Et ces séquences, elles sont comparables d'une espèce à l'autre. Et l'ADN, sous certaines conditions, on sait que sa modification peut donner l'image un peu d'une horloge, c'est-à-dire une mutation en un point donné de l'ADN se fixe dans des populations avec des intervalles de temps relativement réguliers, un petit peu comme une horloge à mutation. Et entre deux espèces, lorsqu'on peut compter les mutations qui séparent deux espèces, et si on a l'horloge, on en déduit le temps qui sépare ces deux espèces depuis leur dernier ancêtre commun. Ça, c'est ce qu'on appelle les horloges moléculaires. Et donc, les phylogénies aussi hein, sont un support à ces calculs. Et donc, si on combine l'anatomie comparée, et si on combine ça avec les fossiles et avec les horloges moléculaires, on peut avoir des fenêtres de datation sur l'apparition des organes. Donc, en effet, le mamelon à 130 millions d'années, la glande mammaire à 220 millions d'années, etc.
Ouais, bah d'ailleurs, en parlant de mamelon et de glande mammaire, on a l'impression que parfois qu'il y a des dates qui semblent un peu incompatibles par rapport aux organismes qui les portent aujourd'hui. C'est-à-dire que l'essentiel, en tout cas, des mammifères qu'on connaît ont à la fois des poils, des glandes mammaires et peut-être des mamelons. Est-ce que vous pouvez nous dire justement comment ça peut nous illustrer certaines histoires évolutives?
Et oui, ça donne le vertige parce que aujourd'hui, chez les mammifères, on connaît toute cette combinaison de caractères ensemble. Mmh. Poils, glandes mammaires et mamelons. Or, tout ça n'est pas apparu d'un seul coup.
Ouais.
Probablement, les poils sont apparus avant la lactation. On a des traces de poils sur des os qu'on appelle les os maxillaires chez des animaux qui ne ressemblent à rien à la faune d'aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle des thérapsides, hein, des animaux d'il y a à peu près 280 millions d'années.
Donc avant les premiers mammifères, on est d'accord?
Voilà, c'est ça. Pardon, 265 millions d'années, oui. On est dans le Permien. On a des traces d'insertion de poils sur les maxillaires de ces animaux. On est sûr que la glande mammaire apparaît il y a 220 millions d'années. Le téton. Alors, le téton, il apparaît plus tard. Vous pouvez trouver, par exemple, dans la faune actuelle, des êtres vivants qui ont les glandes mammaires, mais pas le téton. Exemple, l'ornithorynque.
En effet.
L'ornithorynque a bien des glandes mammaires sur la partie ventrale du corps. Le lait va suinter par des champs mammaires qui sont poreux. Il va suinter, il va s'agglutiner au poil, et le petit, pour boire le lait, le petit ornithorynque va sucer les poils de sa mère.
Donc c'est des champs mammaires, c'est-à-dire qu'il y a les glandes mammaires et ça suinte directement sur les poils.
Ça suinte depuis le champ, oui. Ouais, ouais.
Ah ouais.
Il n'y a pas de tétons, en quelque sorte. Les tétons n'apparaîtront que dans le groupe frère des monotrèmes, c'est-à-dire ornithorynques, échidnés. Le groupe frère s'appelle les mammifères terriens, T-H-E-R-I-E-N. Mm-hmm. Et c'est là qu'on a à la fois qu'on a les tétons. Hein, et ça regroupe les marsupiaux et les placentaires. Voilà. Il y a une notion qui est importante dans le jeu auquel on vient de jouer, c'est-à-dire faire une mosaïque temporelle du corps humain. C'est la notion d'homologie, c'est-à-dire que il est évident que l'humérus, si je dis que l'humérus a 370 millions d'années, il s'agit pas de mon humérus. Mon humérus, celui d'Homo sapiens, d'abord le mien, déjà, en tant que personne, il a simplement mon âge, hein, mon personnel, c'est évident. Et l'humérus d'Homo sapiens, il n'a que 300 000 ans. Et évidemment, on comprend bien que quand on parle d'humérus, là, il s'agit de l'humérus dans l'absolu, c'est-à-dire un organe dont on sait qu'il est connecté au reste des autres organes de la même façon. Et cette notion qui nomme des parties en vertu du fait qu'elles ont les mêmes connexions avec les parties voisines chez différentes espèces, cette notion s'appelle l'homologie. L'humérus de l'humain est homologue de l'humérus du cheval, qui est homologue de l'humérus du lézard, etc. C'est grâce à l'homologie qu'on peut dire que l'humérus est apparu il y a 370 millions d'années. Évidemment, il s'agit pas du mien, Guillaume Lecointre, il s'agit pas de celui d'Homo sapiens, il s'agit d'un humérus plus général, voilà.
Oui, c'est pareil, une personne qui se balade avec un humérus de 300 000 ans, ça encore, on connaît pas. Et pour clarifier, donc, quand on parle de l'humérus, c'est celui qui est au-dessus du biceps, enfin, en-dessous du biceps, ça veut dire.
C'est l'os du bras, tout à fait.
D'accord, ok. Vous avez donné quand même pas mal de dates. Vous nous avez expliqué comment on les connaît, ces dates. C'est à travers, des recherches scientifiques. Vous, à votre avis, est-ce qu'il y a des dates qui sont plus stables les unes des autres, et quelles sont celles qu'on a citées qui, a priori, vont être très stables, et d'autres qui sont amenées à changer assez rapidement?
Oui, il y a des fenêtres temporelles qui sont plus précises que d'autres. J'ai parlé de fenêtres, hein, c'est-à-dire que ce sont des estimations avec des marges d'erreur. Mm-hmm. Par exemple, pour le cou et les doigts, 370 millions d'années, c'est une fenêtre assez resserrée. On a toute une gamme de fossiles très bien documentée, pour laquelle on voit tout à fait émerger d'abord chez Acanthostega à 380 millions d'années, on a 8 doigts, puis ensuite la patte se réduit à 7, 6, 5 doigts et ça se stabilise à 5 doigts. On est assez précis. Par contre, il y a des dates qui sont peut-être un peu plus sujettes à discussion. Par exemple, l'apparition de la bipédie. La marche bipède permanente chez les primates proches de nous, c'est une question de degré en fait, la bipédie. Le répertoire locomoteur de tous les fossiles qui sont plus proches de l'humain qu'ils ne le sont des chimpanzés, sur le répertoire locomoteur, il est multiple. Ce sont des primates qui pratiquent la marche bipède, mais aussi qui se suspendent par les bras, mais qui peuvent aussi marcher sur leurs phalanges. D'ailleurs, ces quatre modalités locomotrices sont utilisées chez les chimpanzés. Les chimpanzés, de temps en temps, ils peuvent se redresser et marcher sur leurs pattes arrière. Ils sont pas en équilibre très stable parce qu'en fait, le centre de gravité de l'animal est plutôt porté vers l'avant sur le thorax. Et donc, ils vont pas marcher longtemps comme ça, mais ils peuvent le faire, en tout cas, pendant un petit temps. Et ils pratiquent beaucoup le knuckle walking, c'est-à-dire la marche sur les phalanges. Mmh. Et puis dans les arbres, ils peuvent pratiquer ce qu'on appelle la brachiation, c'est-à-dire se pendre par les bras, ce dont le gibbon d'ailleurs est le spécialiste, hein, le plus grand spécialiste de la brachiation, c'est le gibbon. Voilà, à l'origine de la lignée humaine, quand je dis lignée humaine, j'entends par là tous les fossiles plus proches de nous, hein, y compris les australopithèques, les paranthropes, etc. La bipédie permanente, c'est peut-être 6,8 millions d'années, mais c'est peut-être 7, c'est peut-être 8, voilà. La marge, elle est de l'ordre de 2 ou 3 millions d'années, quoi. Donc oui, il y aura peut-être des dates qui seront révisées en fonction des découvertes fossiles.
Mais c'est intéressant que vous ayez cité quand même une date qui est finalement proche.
Oui, voilà.
Que moi, j'aurais imaginez que celle dont on était peut-être les moins sûrs, c'est celle qui était le plus éloignée dans le temps, mais en fait, même des dates proches sont amenées à être révisées encore, oui. avec d'autres données qui vont survenir bientôt.
Oui, c'est étonnant, l'apparition de la mâchoire, par exemple, associée au crâne, l'apparition de cette mâchoire inférieure, on l'a à 420 millions d'années.
Ouais.
Et il y a tellement d'organismes mâchoires qui apparaissent spontanément dans le registre fossile à ce moment-là. Alors évidemment, hein, à 2 millions d'années près sur 420 millions d'années, c'est une précision qui est pas mauvaise. Ouais. 2 millions d'années près sur 6,8 millions d'années, c'est pas une précision. C'est pas terrible. Donc cette précision, évidemment, elle est à estimer relativement à l'ancienneté à laquelle elle se rattache.
Bien sûr.
Ouais.
Au milieu de l'énumération des points de la mosaïque temporelle, vous réalisez un point d'orientation. Je pense que ça peut être intéressant pour qu'on puisse mieux comparer l'anatomie humaine avec celle d'autres animaux, notamment les vertébrés. Est-ce que vous pourriez aider nos auditrices et auditeurs à savoir ce qui est l'arrière de l'avant, du dessous chez nous et chez la majorité des autres animaux?
Et oui, c'est une petite difficulté parce que la médecine n'a pas vraiment adopté le vocabulaire de l'anatomie comparée. Pour l'anatomie comparée, ce qui est spontanément à l'avant chez nous, c'est-à-dire devant nous, c'est la face ventrale. Nous marchons avec la face ventrale devant nous. Nous exposons devant nous la partie la plus fragile du corps, le ventre. Et par conséquent, ce qui est l'avant en anatomie comparée, chez nous, c'est le dessus de la tête. Ce qui est dorsal pour l'anatomie comparée, chez nous, c'est à l'arrière. Et ce qui est postérieur pour l'anatomie comparée, eh bien, chez nous, je disais donc, c'est à l'arrière. Et donc, ça explique en partie pourquoi la médecine parle pour les membres supérieurs de l'humain. Ces membres correspondent pour l'anatomie comparée aux membres antérieurs.
Mmh.
Et de même, pour l'anatomie comparée, les membres postérieurs, c'est-à-dire ce qui correspond aux jambes, la médecine l'appelle les membres inférieurs. Et donc, ça complique un peu les choses pour comparer. C'est vrai que quand on passe en anatomie comparée, on aura tendance à ne pas utiliser le vocabulaire de la médecine, mais à utiliser un vocabulaire plus généraliste, en effet.
Ouais. Mais ce qui est utile comme orientation, bon, donc en gros, on comprend que pour mieux s'orienter, si on veut faire de l'anatomie comparée, on s'allonge sur un matelas, avec la tête vers les yeux vers l'avant et hop.
On se met à quatre pattes, quoi, en quelque sorte.
Ça marche. parmi toutes ces structures participant à la mosaïque temporelle du corps humain, il y a certaines qui évoquent des paradoxes d'inutilité assez connus, notre anatomie. Le coccyx, c'est la question de la perte de la queue chez les grands singes. Le pavillon de l'oreille est la capacité qu'ont certaines personnes d'agiter les oreilles. Le mamelon est le mystère du téton masculin. C'est dans la grande partie de votre livre, L'inutile et naturel, que sont traitées ces questions avec un découpage où ces caractères sont classés soit comme « c'est comme ça », comme « atavisme constant »,« inconstant » ou encore comme « handicap ». Et en préparant cette émission, il m'a semblé en fait utile de clarifier quelques points de vocabulaire, comme par exemple les termes « vestigial » et celui que vous utilisez assez souvent, et notamment dans cette classification, d'atavisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer s'il existe une différence déjà entre les deux, et si tout le monde s'accorde sur les mêmes définitions?
Ah oui, un organe vestigial, quand on dit qu'il est vestigial, dans le vocabulaire, on sous-entend qu'il a eu une période de gloire, si je peux le dire comme ça, une période d'utilité, d'accord, en quelque sorte. Et que quand on dit que quelque chose est un vestige, c'est une trace qui reste, mais cette trace, elle a forcément perdu de son brio, ou elle a perdu les raisons qu'on avait eues de la nommer, en quelque sorte. Donc oui, un vestige, c'est un reste, en quelque sorte. Un atavisme, c'est simplement une réminiscence du passé. Les deux notions sont proches l'une de l'autre.
D'accord. Mais en gros, l'atavisme comprend le vestige?
Wiedersheim avait, un anatomiste allemand, avait, en 1893, je crois, listé toute une série d'atavismes, mais certains d'entre eux étaient en effet fonctionnels.
D'accord.
Le vestige est forcément un atavisme, mais l'atavisme n'est pas forcément un vestige.
Très bien.
Voilà. Bon, l'atavisme, c'est une trace du passé, en quelque sorte. Alors, c'est vrai que je les ai classés en constants et inconstants. Il y a des traces du... Là, en l'occurrence, je les ai qualifiés d'atavisme pour ne pas... Parce que justement, dans certains des chapitres, la fonctionnalité est discutée. Hein, comme par exemple, on y reviendra peut-être, le cas de l'appendice. Hein. Mm-hmm. Mais les atavismes constants, bah, c'est ceux que nous présentons tous. Et les inconstants, bah, c'est simplement ceux qui ne sont possédés que par une partie de l'humanité. Nous, par exemple, un atavisme, commençons par un constant, un ouais. plus ou un constant.
D'accord.
C'est ces trois muscles du pavillon de l'oreille. Nous avons tous trois muscles du pavillon de l'oreille, le muscle auriculaire supérieur, le muscle auriculaire postérieur et le muscle auriculaire inférieur. Et en effet, nous ne remuons pas les oreilles, le pavillon des oreilles. Enfin, certaines personnes peuvent le faire légèrement, mais probablement plusieurs autres muscles doivent participer à ce petit mouvement, en tout cas qui est loin d'atteindre celui qu'on peut constater chez un cheval, chez un chat ou chez un chien, où là, les pavillons de l'oreille sont extrêmement mobiles. Non seulement ils servent à améliorer l'audition, mais aussi ils permettent à ces animaux d'indiquer leurs humeurs. C'est vrai pour le chien, hein, les oreilles baissées, c'est un signe de soumission. Chez le chat, les oreilles abaissées, c'est un signe d'irritation ou de peur. Voilà. Chez nous, ça se passe plus du tout comme ça. Nous ne remontons plus le pavillon des oreilles. Et d'ailleurs, il n'y a pas que nous. Hein, tous les singes vrais, c'est-à-dire les singes simiformes, ne remuent plus les pavillons de l'oreille. Et d'accord. Pourtant, nous avons toujours ces trois muscles. Alors, si on applique le principe qu'on a cité tout à l'heure, hein, si on applique la datation, les principes de datation dont on a parlé, eh bien, ces pavillons de l'oreille sont apparus vers 220 millions d'années. Et chez les singes vrais, ça fait 34 millions d'années qu'on ne s'en sert plus. Car les singes vrais, la date du groupe des singes vrais, c'est 34 millions d'années. Donc, ça fait, chez les mammifères, donc 34 millions d'années que chez nous, on ne se sert plus de ces trois muscles.
Quelles sont les espèces qu'on trouve dans les singes vrais, juste pour clarifier?
Les singes vrais, les grands singes, hein, gibbons, gorilles, orang-outans, mais aussi les singes cercopithécoïdes, les macaques, les cercopithèques, les babouins, voilà.
Okay.
Petite anecdote, il y a quand même un de ces trois muscles qui a conservé une très légère activité électrique. Des expériences ont été faites aux États-Unis où on a mis des volontaires en face d'écrans sur lesquels on leur montrait des choses appétissantes, des plats appétissants, des membres du sexe opposé appétissants, etc. Et ces volontaires s'étaient laissés fixer sur la tempe des électromyogrammes, c'est-à-dire des appareils qui enregistrent l'activité électrique des muscles de surface. Et le muscle auriculaire supérieur ne montre absolument aucune stimulation devant une scène appétissante. Le muscle auriculaire inférieur non plus. Par contre, le muscle auriculaire postérieur conserve encore un petit stimulus électrique lorsqu'on montre à la personne quelque chose d'appétissant. Et ça nous fait penser au chien qui dresse les oreilles quand on lui apporte sa gamelle pleine. Nous avons conservé une très légère excitation du muscle auriculaire postérieur. Mais voilà, donc ça veut dire que le câblage neuromusculaire associé à au stimulus, il est toujours présent, même s'il ne sert que très peu, il est toujours présent.
Ça, c'est à la fois un atavisme et un vestige, on est d'accord ?
Un vestige, ouais. Et ça, c'est pour le constant. Par contre, un inconstant, un exemple d'atavisme inconstant, bah, il y a une paire de côtes ou alors une seule côte sur la première vertèbre lombaire. Et ça, c'est présent chez 5% des humains, ce qui est quand même pas mal. Mm-hmm. Une paire de côtes supplémentaire qui est parfaitement asymptomatique. Les personnes le découvrent à l'occasion d'une radiographie faite pour autre chose. Et le médecin lui dit, ah bah, tenez, madame ou monsieur, tenez, vous avez une côte, une seule côte, d'un seul côté supplémentaire sur la première vertèbre lombaire. Je rappelle que normalement, chez les humains, il n'y a pas de côte sur les vertèbres lombaires. Ces côtes lombaires remontent aux thérapsides dont j'ai parlé tout à l'heure, ces reptiles mammaliens qui n'étaient pas des mammifères. On les qualifie de mammaliens parce que ils sont plus apparentés aux mammifères qu'ils ne le sont des lézards, mais ce ne sont pas des mammifères, ces animaux du Permien qui ne correspondent pas vraiment à quoi que ce soit de la faune d'aujourd'hui, mais ils avaient en effet des côtes. Ils sont dans notre lignage très lointain et ils avaient des côtes lombaires.
Ouais. Ouais, on sait à peu près quand est-ce qu'on a perdu ces côtes lombaires, parce que ça, on sait donc quand est-ce qu'elles étaient chez les thérapsides, mais...
Ouais, tout à fait. Les côtes lombaires disparaissent, c'est les mammifères véritables. En fait, il y a une sectorisation de la colonne vertébrale. Uh-huh. Il y a un segment sacral et un segment lombaire qui s'ajoutent au segment thoracique. Ça, c'est la sectorisation, si je peux le dire comme ça, d'une colonne vertébrale. Et ça, c'est chez les mammifères, il y a 220 millions d'années. Ouais. Il y a plus, normalement, ces côtes lombaires ne sont plus là depuis 220 millions d'années.
Donc ça, c'est un atavisme...
Qui remonte à très loin, ouais.
Qui remonte vraiment des centaines de millions d'années, enfin, 200, plus de 200 millions d'années en arrière.
Ouais, voilà. Et c'est comme la paire de côtes sur la dernière vertèbre cervicale, la septième cervicale. C'est présent chez 0,5% des personnes. Et, c'est très rare, hein, comme atavisme. Mais ça peut exister, en effet.
La septième, c'est celle qui est la plus proche du thorax?
C'est ça. C'est la dernière, la septième. Ouais. D'accord. Et puis, pour terminer, puisqu'on parle de côtes, ma petite anecdote, 3% des personnes n'ont pas du tout la douzième paire de côtes, c'est-à-dire la dernière, la deuxième flottante. Cette dernière paire de côtes flottante, la douzième paire de côtes, elle est absente chez 3% des personnes et elle ne s'en porte pas plus mal. Et donc on peut se dire, tiens, à quoi sert la douzième paire de côtes?
Donc cette catégorie d'atavisme inconstant, j'ai l'impression qu'elle ressemble un tout petit peu à la définition qu'on retrouve un peu partout des atavismes qui disent que ça réfère à la réapparition d'un caractère ancestral chez un individu qui normalement ne devrait pas le posséder. Vous recouperiez avec cette définition ?
Ah oui, vous avez raison. Moi, tout à l'heure, j'ai utilisé le mot réminiscence, mais c'est ça que ça veut dire. Mmh. Oui, tout à fait. C'est le cas qu'on vient de découvrir ici. Vous voyez, la paire de côtes sur la septième vertèbre cervicale, normalement, on ne devrait plus l'avoir. Enfin, normalement, chez l'énorme majorité des humains, elle ne devrait pas être là. Mmh. Et encore, quand je dis ça, dire qu'elle ne devrait pas être là, c'est normatif. Disons que statistiquement, on s'attend pas à ce qu'elle soit là.
C'est ça.
Mais en effet, elle est une résurgence d'un vieux passé de reptiles mammaliens. Tout comme d'ailleurs les côtes de la première vertèbre lombaire.
Alors on a une petite question sur le chat qui a popé comme ça. On parle de la mobilité des oreilles qui ne servent plus à rien. Est-ce que c'est la même chose pour la mobilité du nez ? On pose Nathan.
Pas que je sache. On peut écarter ou resserrer les narines, en effet. Mais le nez n'a pas de mobilité propre que je sache, si ce n'est une mobilité indirecte associée aux muscles du visage. Mais
d'accord, ok. Ouais. Oui, c'est plus un mouvement général. Et hop. Est-ce que je vois une autre question qui pourrait être intéressante? Bon, il y en a une qui parle de testicules, je sais pas si on la met tout de suite. Pourquoi chez l'homme, la partie la plus fragile, en particulier dans le combat, les testicules sont pile devant, au milieu? On nous pose des questions de Yves Rongui. Si vous avez une réponse à ça.
C'est une contrainte historique. Typiquement, c'est une contrainte historique. Chez un vertébré, les testicules sont placés donc en région postérieure. Hein. Imaginez un animal à quatre pattes.
Encore une fois, ouais.
Normalement, les testicules sont en région postérieure et ventrale. D'ailleurs, il y a beaucoup de mammifères, enfin certains mammifères ont des testicules intra-abdominales. Chez les éléphants, chez les cétacés, chez les rhinocéros, les testicules sont dans l'abdomen et ne sont pas à l'extérieur. Lorsqu'ils sont à l'extérieur, eh bien, ils sont en position postérieure et ventrale. Chez l'humain, évidemment, entre 6 et 7 millions d'années, l'humain devient un bipède permanent. Son ventre s'expose à l'avant, par conséquent. Et donc, les testicules qui sont ventrales passent à l'avant. Et ils restent, évidemment, entre les membres postérieurs qui sont devenus les membres inférieurs. Et donc, en effet, comme je disais tout à l'heure, l'humain, lorsqu'il se tient debout, expose à son alter ego, il expose les parties les plus fragiles. de son corps, et ce n'est pas sans rapport avec l'apparition, alors c'est indirect, hein, mais c'est pas sans rapport avec l'apparition de la diversité des muscles faciaux chez l'humain. L'humain est le primate où les expressions faciales sont les plus diversifiées, et avec une richesse de muscles faciaux qui est très probablement une adaptation à la communication pacificatrice. Il faut montrer à l'alter ego qu'on ne vient pas en agresseur, et plus on a de dispositifs, de disposition à la, de prédisposition à la communication, et y compris visuelle, plus on évite, on va dire, plus on affine les rapports sociaux et plus on évite les malentendus, si je peux le dire comme ça. Ça, c'est un zoologiste anglais qui avait émis cette hypothèse en 1968, qui s'appelle Desmond Morris, qui a fait un livre très connu qui s'appelle Le singe nu, et qui explique en quelque sorte l'origine des expressions faciales humaines très très développées. Alors d'autres primates ont des expressions faciales bien sûr, hein, mais chez l'humain c'est particulièrement développé, et ainsi que le langage, en partie lié au fait que nous exposons aux prédateurs ou aux congénères, nous exposons nos parties les plus fragiles.
Et justement, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, dans le livre, vous parlez du sourire. Moi, c'est un exemple que vous donnez qui m'a frappé, parce que jusque-là, on parle d'organes, on parle de squelettes, mais en fait, ces questions de sélection et finalement d'inutilité, c'est pas uniquement des os, des organes, ça peut aussi être une expression. Est-ce que vous pouvez justement nous réexpliquer un peu d'où vient ou quelle aurait pu être la fonction initiale de cette expression qui aboutit aujourd'hui au sourire?
Mmh. Oui, le sourire. Alors, il s'agit pas pour le coup d'inutilité, mais il s'agit de recyclage entre guillemets, c'est-à-dire donner à une prédisposition, qu'elle soit structurelle ou comportementale, donner à cette prédisposition une fonction nouvelle, dévoyer la fonction, recycler la fonction en autre chose en quelque sorte. Le sourire chez les primates, en effet, ce qu'on appelle le rictus, qui correspond chez nous à un sourire, c'est d'abord une mimique de peur ou de soumission, mais d'abord de peur. Et face à cette situation d'un humain qui expose la partie la plus fragile de son corps à un alter ego, le sourire, enfin c'est ce rictus pardon, au départ a été mobilisé probablement pour signifier qu'on ne vient pas en agresseur. Je suis pas en agression, je suis en posture humble, je viens vers toi, je suis en posture humble, et on peut commencer à discuter. Enfin, entre guillemets, bien sûr. ce sourire devient, chez l'humain, ritualisé, c'est-à-dire que il passe d'une mimique de non-agression à une mimique de bienvenue, voire même à un rituel de salutation. Et donc la fonction se modifie au cours du temps. Plus l'humain complexifie ses rapports sociaux, plus le rictus, qui était un rictus de peur ou de soumission, devient un rictus de pacification. D'ailleurs, chez certains grands singes, notamment chez les gorilles, ce rictus, lorsqu'un individu hiérarchiquement inférieur est confronté à un autre individu hiérarchiquement supérieur, eh bien ce rictus est employé aussi comme un rictus de pacification de la part de l'inférieur, et l'inférieur est rassuré lorsqu'il voit que le supérieur, en réponse, adopte le même rictus. Donc c'est un rictus de soumission, mais c'est aussi un rictus, comme je le disais, de pacification des rapports sociaux. Et il était mobilisé chez l'humain dans une grande diversité de situations.
D'accord.
Alors ça, c'est un exemple de recyclage. Alors ça porte un nom savant, cette histoire-là. Le nom, c'est exaptation. Exaptation, ça veut dire que on change pas la disposition, mais on la fait changer de fonction. On change pas la structure, mais on change la fonction. Par exemple, le pouce opposable, qui est une signature de primate, il date de 65 millions d'années, ce pouce qui est opposé aux autres doigts de la main. Eh bien, ce pouce opposable, au départ, à l'origine des primates, se saisissait de branches. C'est un organe de préhension. Et chez l'humain, il est remobilisé. Alors, il est toujours utile pour la préhension, bien sûr, hein, même si on ne saisit plus beaucoup les branches aujourd'hui, mais on peut toujours se saisir d'objets grâce à notre pouce opposable. Mais en même temps, il adopte aussi des fonctions symboliques surnuméraires. Par exemple, lever le pouce en l'air, c'est le pouce de l'autostoppeur qui peut faire arrêter un véhicule sur la route C'est une fonction symbolique qui ne modifie pas la structure de l'organe. Exaptation, voilà.
Nickel. On a une question dans la chatroom qui est venue. Il y a HK qui nous demande pourquoi on a utilisé à plusieurs reprises dans cette interview les termes de vrai singe ou vrai mammifère. Est-ce que c'est en opposition, j'imagine, faux mammifère ou faux singe, ça peut être un peu perturbant.
Oui, tout à fait. C'est une bonne question. C'est pour éviter de donner des noms de groupes trop barbares, mais on va les donner. Alors les primates en général sont composés des lémuriens de Madagascar qui ont une petite truffe et qui ont de jolis yeux faciaux. Ce sont bien des primates parce qu'ils ont les pouces opposables aux mains et aux pieds. D'accord. Et à côté des lémuriens, il y a ce qu'on appelle les singes véritables, c'est-à-dire les simiformes, parce que les lémuriens sont pas vraiment des singes. Voilà, ce sont des lémuriens quoi, parmi les primates. Alors que les singes vrais, bah, les simiformes, ce sont en Amérique du Sud les Wistiti et les hurleurs. Et puis dans l'ancien monde, eh bien, on a les macaques, les babouins. Les cercopithèques et puis les grands singes, c'est-à-dire les singes anthropoïdes. Alors, une signature de singe véritable, bah, les frontaux droite et gauche, sur le front, les deux os frontaux droite et gauche sont fusionnés. Il n'y a plus de suture frontale chez les singes vrais. Et l'os dentaire de la mandibule, à droite et à gauche, bah, ces deux os dentaires ont fusionné. Il n'y a plus de symphyse dentaire au milieu de la mandibule. Vous regardez une mandibule humaine, bah, elle est faite d'une seule pièce. Okay. Et ça, c'est une signature de singe véritable, oui.
Ok, donc on a...
Simiforme.
Très bien. On a donc les simiformes, les entre guillemets vrais singes. C'est, on a un os du front qui fait
unique.
Vraiment, voilà, qui fait vraiment voilà. Unique une partie du front et une mandibule. C'est-à-dire que si on s'arrache la mâchoire, ça fait qu'un seul os.
Voilà,
mais
c'est ça.
À ne pas reproduire chez soi, bien entendu.
Et pour les mammifères, j'ai pas répondu, mais les vrais mammifères, bah, on va dire que ce sont les... La signature des mammifères, c'est la mandibule complètement composée de l'os dentaire. Ça, c'est vraiment une signature paléontologique des mammifères. Et si on dirait des faux mammifères, bah oui, c'est il y a au cours du début de l'ère secondaire et à la fin de l'ère primaire, il y a toute une gamme d'organismes parmi lesquels on voit apparaître les caractères mammaliens petit à petit. Et donc, c'est pas des mammifères complets au sens où on les connaît aujourd'hui. Mais ils ont seulement une partie des attributs des mammifères. Par exemple, chez les thérapsides, alors pour utiliser des gros mots, hein, bah voilà, les thérapsides du Permien, ils avaient des poils, mais ils n'avaient pas encore la mandibule faite d'un seul os. Quand je dis pas encore, c'est même aberrant parce que au temps où ils vivaient eux, l'avenir n'était pas écrit, bien sûr. Tout simplement, ils n'avaient pas la mandibule faite d'un seul os. Ouais.
Et on imagine qu'ils n'allaitaient pas non plus.
C'est plus compliqué à savoir ça, ouais, ah, parce que l'allaitement ne se fossilise pas, donc
c'est ok, très bien. Encore un petit mystère. Et d'ailleurs, en parlant de mystère, il y en a un qu'on a évoqué un peu plus tôt, c'est le téton masculin. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il est entré dans la catégorie plutôt que atavisme constant ou même handicap, lui il rentre dans la catégorie c'est comme ça dans l'ouvrage.
Ah oui. Oui, c'est un cas un peu spécial justement. C'est pour ça qu'on. Je sais pas si c'est très habile de l'avoir fait comme ça, mais c'est comme ça. Ça veut dire. C'est en cours de discussion. C'est compliqué. Voilà.
Ah, okay.
Non, mais le téton masculin, c'est pas que c'est vraiment compliqué. C'est qu'en fait, l'organe, il est utile à l'espèce, mais il est inutile pour l'individu masculin. Donc tout dépend du niveau auquel on se place. Voilà. Alors, il est évident qu'un téton. C'est utile pour l'espèce car le téton permet aux petits mammifères placentaires, donc aux mammifères eutériens, il permet aux petits mammifères de se saisir de la mamelle et de boire le lait plus facilement. Mmh. Il est évidemment que le téton mammalien est utile à l'allaitement, mais ce téton, il démarre dans l'embryogenèse ces tétons commencent à se former sur le ventre. Mais il commence à se former avant la différenciation des caractères sexuels véritables. Mmh. Et ils reprendront ces tétons, leur développement après la puberté seulement chez les femelles. Mais par contre, pour des raisons hormonales, le développement ne reprend pas du côté mâle, en quelque sorte. Et donc ces tétons sont toujours là sur le corps du mâle, mais pas parce qu'ils servent au corps mâle, Ils sont là parce que leur raison d'être est embryologique. C'est une contrainte de construction, en fait. Voilà, ils sont là pour des raisons embryologiques. C'est que au démarrage de l'embryogenèse, ils avaient commencé leur développement, mais ils se sont arrêtés en cours de route et leur développement ne sera reparti que chez les femelles et pas chez les mâles. Donc c'est un peu compliqué, voilà, le téton. Mais en effet, nous avons tous un téton, enfin tous les hommes, tous les mâles de l'espèce humaine ont un téton qui ne leur sert pas personnellement. Et puis même parfois des tétons surnuméraires. Ça, ce sont des atavismes inconstants. Ça me permet d'en citer un autre. Hein. Chez pas mal de mammifères, les tétons vont par paires, mais il y a toujours plusieurs paires. Et c'est seulement chez les primates que une seule paire apparaît. Alors pas seulement chez les primates, il y a aussi une seule paire chez les siréniens et chez les cétacés. Mais enfin bon.
Les siréniens, c'est les lamantins du gong,
c'est ça, ouais. Mais chez les primates, c'est particulièrement prononcé. Il n'y a que deux glandes mammaires. Et de temps en temps, comme nous avons conservé d'anciennes impulsions de développement atavique pour le coup, chez certaines personnes, il peut y avoir sur le thorax un téton supplémentaire, soit seulement à droite, soit seulement à gauche. Et parfois même, il n'y a que l'aréole du téton. Voilà.
C'est une petite tache, quoi.
Ça se produit, ça se produit.
Alors, dans votre livre, donc là, on a parlé des caractères anatomiques, mais vous êtes aussi intéressé à d'autres caractères qui sont plus moléculaires. Et vous parlez donc dans le livre des éléments transposables, qui sont ces séquences capables de se déplacer ou de se dupliquer parfois même dans le génome. Et vous donnez l'exemple des séquences ALU, qui sont donc des éléments transposables. Et ces séquences ALU, elles sont liées à de nombreuses maladies via des événements de recombinaison de génome. Mais moi, ce qui m'a surpris, c'est que, de mon point de vue, en fait, j'aurais pensé que puisqu'il y a ces événements qui conduisaient à des maladies, on s'attendrait à ce qu'il y ait une sélection négative sur ces séquences ALU. Et pourtant, comment ça se fait qu'on n'ait pas l'impression d'avoir cette sélection naturelle négative vis-à-vis de ces séquences dans notre génome ?
Oui, ça pose la question de l'origine de l'ADN qu'on appelle, entre guillemets, l'ADN poubelle. Il y a eu beaucoup de littérature écrite par les scientifiques sur cette question. Il a été avancé l'idée que les séquences, 80% du génome qui ne code pas de gènes, chaque cellule recopie à chaque division cellulaire du matériel génétique qui à 80% n'est pas véritablement utile pour en termes d'impulsion génétique, ça fait réfléchir. Hein. Et certains ont avancé que cet ADN qui n'est pas codant servait de réservoir en quelque sorte à mutation ou de tampon à mutation, c'est-à-dire que si le matériel génétique est agressé physiquement ou chimiquement, eh bien ces agressions ont plus de chances de tomber sur de l'ADN qui n'aura pas d'effet parce que ça ne touche pas un gène que de l'ADN qui a plutôt que sur de l'ADN qui est codant, comme on dit. Cette théorie elle est discutée. Pourquoi? Parce que on connaît des organismes qui n'ont pas d'ADN poubelle, comme les bactéries par exemple, les oesobactéries ou les archébactéries. Enfin, dans le monde bactérien, il n'y a pas d'ADN poubelle et évidemment le matériel génétique est agressé, bien sûr. Ces êtres vivants existent toujours. Alors évidemment, ils ont un temps de vie plutôt réduit. C'est plutôt compliqué à comparer, en fait. Donc on se perd un petit peu en conjecture sur l'existence de l'ADN poubelle. Le débat n'est pas tranché. Pourquoi est-ce que des séquences ALU continuent de se balader partout et de semer la zizanie dans le génome? Certains ont écrit qu'il y a plusieurs niveaux de sélection dans un organisme. Les niveaux de sélection sont emboîtés et que là on serait au dernier niveau, c'est-à-dire qu'en gros ces séquences jouent pour leur propre compte. Ça a fait couler beaucoup d'encre, ça, dans les années 1970, très précisément en 1976 avec le livre de Richard Dawkins, Le gène égoïste, traduit en français un peu plus tard dans la décennie qui a suivi. Il y aurait des gènes dans nos génomes ou des séquences en tout cas qui se répandent pour leur propre compte. C'est une question de proportion, en fait. Si dans la population ces séquences ne font pas mourir systématiquement les individus qui les portent, Nous apportons tous hein, des séquences à lui. C'est très répandu chez les primates et chez les mammifères, chez les primates et chez les rongeurs, selon la fréquence avec laquelle ces séquences se déplacent et le nombre d'individus chez qui ça va se produire dans la population. On peut considérer que jusqu'à présent, le poids représente la charge potentielle des maladies qui peuvent apparaître par déplacement de séquences n'est pas arrivé à un point où notre espèce a disparu. Donc c'est comme une espèce de compromis et entre niveaux de sélection. Et la leçon qu'on doit tirer de tout ça, c'est que la sélection naturelle, globalement, elle fait pas des perfections, elle fait des compromis, c'est-à-dire qu'elle laisse passer des dispositions qui, cas un cas, permettent à la population de s'en sortir. En fait, tout simplement, la perfection ne fait pas partie de la biologie.
Ça, c'est aggravé en lettres de feu. Parmi les atavismes constants, vous évoquez le fait que l'espèce humaine garde la trace d'une troisième paupière. En témoigne un petit repli de tissu au coin de l'œil, qu'on nomme le pli semi-lunaire ou plica semi-lunaris. Mais surtout, les muscles qui y sont associés, eux, justement, ce serait ce témoignage du passé. Alors, c'est quoi l'histoire évolutive associée à cette structure ?
Ce petit muscle, il est extrêmement peu, il est vraiment vraiment petit. Hein. Il est millimétrique. Hein. Mm-hmm. Donc, faut être véritablement avoir des moyens techniques pour le repérer. Cela dit, il correspond au muscle qui active chez les amniotes, c'est-à-dire chez les vertébrés qui pondent des œufs. Eh bien, ça active la paupière qui est verticale. Qu'on voit se glisser sur un œil d'oiseau, par exemple. On peut voir glisser sur un œil de lézard. Il y a aussi une paupière reformée chez le chat.
J'étais en train de penser à mon chat, j'étais là, on dirait qu'il a peut-être.
Oui, chez les carnivores, chez certains mammifères, cette paupière surnuméraire reste développée. Chez les primates, elle a disparu. Parce que nous humectons notre globe oculaire avec d'autres structures qui sont les replis de peau qui nous servent de paupières sur la partie supérieure du globe oculaire et sur la partie inférieure. Donc tous les mammifères n'ont pas véritablement de paupières comme je viens de les décrire. Par contre, quand on sort des mammifères, là vraiment il y a plus de paupières sauf la membrane nictitante.
Donc cette membrane qui est cette troisième paupière passant sur l'œil,
qui correspond à la troisième chez nous, mais qui est l'unique paupière chez un lézard ou chez un oiseau, ouais, tout à fait.
Ah ouais, d'accord. Okay.
Un oiseau, vous avez remarqué, ça a l'œil rond. On n'a pas, y a pas ce repli de peau qui permettrait de battre des cils, comme on dit aujourd'hui, comme on dit chez nous.
C'est vrai. D'autant plus qu'ils n'ont pas de poils, donc ça fait moins de cils.
Oui.
Initialement, Gaël et moi, nous nous étions focalisés sur deux organes, qui sont souvent érigés comme des exemples d'organes inutiles, mais en fait, leur histoire n'est pas si simple.
Oui, c'est vrai. Il y a un exemple que tout le monde a probablement en tête quand il s'agit d'inutilité dans le corps, entre guillemets, c'est celui de l'appendice. Ce petit organe, donc, on le trouve à la proximité de notre système digestif, et on le connaît parce qu'on connaît tous l'appendicite que certains déclenchent, notamment pendant l'enfance. Il y a donc cette légende comme quoi l'appendice serait un vestige d'un organe du passé, il ne servirait à rien. Mais ce que vous expliquez dans votre livre, c'est qu'en fait, c'est probablement faux et que l'appendice aurait donc une fonction.
Oui, et ça, on l'a découvert récemment. C'est une vieille histoire. C'est Charles Darwin, en 1859, qui parle justement d'atavisme. Il essaie d'exprimer cette idée que les corps biologiques ont une histoire paléontologique ancienne, et il commence à parler de d'atavisme qui pourrait être justement des images les plus illustratives de cette histoire. Et il parle de l'appendice, en parlant de l'appendice comme un vestige d'une portion de tube digestif disparue. D'ailleurs, on sait, au XXe siècle, on sait que l'ablation de l'appendice n'empêche pas ceux qui la subissent de vivre. Et donc ça a renforcé cette idée, déjà exprimé au XIXe siècle, ça a renforcé cette idée que finalement l'appendice c'est un morceau d'un intestin, un petit morceau d'un bout de fin d'intestin ancestral et dont on pourrait très bien se débarrasser. Et en 2007, patatras, en 2007, un article a commencé à poser de manière sérieuse cette idée que il y a une double fonction à l'appendice finalement. Et ça a été confirmé par d'autres études en 2019 et 2023. La première fonction, c'est celle c'est une fonction de réservoir, c'est-à-dire que chez les espèces dont les petits, dont les jeunes meurent le plus de diarrhée, c'est-à-dire d'infections entériques, c'est vrai des jeunes primates. Et d'ailleurs, les primates, pour une bonne part d'entre eux, ont l'appendice. Eh bien, si on a l'appendice, le nombre de jeunes qui meurent d'entérite est inférieur par rapport aux espèces qui n'ont pas l'appendice. Si je résume de manière très courte, et il semble clair que l'appendice sert de réservoir à bactéries lorsque le tube de l'intestin a été agressé par des agents extérieurs et que, en quelque sorte, ça a fait un peu tabula rasa, l'appendice est la souche à partir de laquelle la paroi de l'intestin va être colonisée par les bonnes bactéries, les bactéries résidentes en quelque sorte, qui avaient été préservées dans ce petit coin reculé qui était l'appendice.
D'accord.
Donc une première fonction de réservoir et une deuxième fonction qui est la fonction immunitaire. En 2007, on découvre que l'appendice possède des tissus qui fabriquent des anticorps. Ces anticorps, ce sont les IgA, des immunoglobulines qui permettent de commencer à immobiliser des agents extérieurs trop agressifs, comme par exemple des salmonelles. Enfin, je parle là de bactéries qui ne seraient pas des bactéries résidentes, mais au contraire des bactéries pourraient poser problème pour la santé. En tout cas, il y a un premier front immunitaire qui est fourni par ces immunoglobulines produites par l'appendice. Donc on a là deux fonctions associées. Alors pourquoi est-ce que on n'en meurt pas quand on la retire? Parce que nous sommes dans des conditions sanitaires qui ne correspondent pas à celles des primates chasseurs-cueilleurs que nous étions il y a 20 000 ans. Donc dans la société d'aujourd'hui, telle que nous vivons, avec l'alimentation que nous avons, nous ôter l'appendice n'a pas de conséquences. Par contre, si on pouvait imaginer que on ait pu retirer l'appendice à des chasseurs-cueilleurs ou à des populations qui vivent véritablement dans la nature, là on aurait peut-être constaté un prix à payer.
Alors, on a pas mal de questions qui sont remontées sur la chatroom. Visiblement, la plupart des auditrices et d'auditeurs commencent à regarder leur anatomie se poser des questions. Il y en a une première de Barenzia qui se demande si le muscle qui est visible sur un seul de ses poignets au niveau du canal carpien, c'est vestigial.
Ah oui, alors tout à fait, c'est vestigial, c'est le muscle manieux, c'est un muscle supplémentaire que certaines personnes sont soit sur la main droite, soit sur la main gauche, rarement sur les deux d'ailleurs. Ce muscle manieux, c'est la réminiscence du muscle extenseur des gros orteils.
Alors, il va falloir s'expliquer, parce que si on est au niveau des mains...
Voilà, c'est ça, exactement. C'est qu'en fait, au XIXe siècle, des anatomistes qui avaient disséqué des corps humains avaient repéré depuis longtemps ces muscles surnuméraires sur la face supérieure de la main.
Mm-hmm. Pas pour tout le monde, on est d'accord. Hein.
Oui, pas pour tout le monde. Ce sont des atavismes inconstants, justement. Mm-hmm. Ils s'insèrent sur le poignet et ils vont s'attacher sur certains des doigts. Alors, ça dépend des gens. Parfois, ils s'attachent sur le majeur, parfois sur l'annulaire. Parfois sur l'annulaire et l'auriculaire. C'est même pas constant au niveau des attaches. Déjà au fin 19e siècle, les anatomistes le doublent. Et Baudouin avait déjà émis l'idée que ces muscles-là sont l'équivalent d'un muscle qu'on a sur le pied, sur le dessus du pied, qui est le muscle, mais qui, pour le coup, là maintenant, est chez tout le monde. Hein, c'est le muscle extenseur des orteils.
D'accord.
Et qui a trois axes et qui s'insère sur trois des doigts du pied.
D'accord. Et donc les équivalents de ceux qu'on a cités tout à l'heure.
Oui, voilà. Alors, okay. Comme les anatomistes du 19e siècle appelaient les fléchisseurs des orteils le muscle pédieux, mm-hmm. eh bien en référence au muscle pédieux au pied, ils ont appelé le muscle de la main dont on parle le muscle manieux. Et ils avaient bien repéré que ces muscles datent d'une époque où nos mains étaient des pieds en fait. Ce qui est amusant, mais
en effet.
Là typiquement on a un atavisme, c'est-à-dire la réminiscence de quelque chose qui n'est pas là habituellement, mais qui de temps en temps ressort. Ouais. Et c'est parfaitement comment dire, sans problème, hein, les gens qui ont ce muscle supérieur, enfin, pardon, super, ce muscle surnuméraire ne s'en porte pas plus mal. Hein.
Et alors, je vérifie vite fait pour le muscle manieux, sa disparition, ce serait environ, il y a combien de millions d'années?
Lorsqu'on arrête de se servir de ses membres antérieurs pour marcher, en toute logique, on devrait être aux origines des primates, c'est-à-dire vers 65 millions d'années. Ouais.
Wow, d'accord. Ok. Donc bravo Barendia, vestige de 65 millions d'années sur la main. Une autre personne sur la chatroom, Yvrongi, se pose la question sur la rate. Est-ce qu'on sait si ça sert vaguement à quelque chose, si on peut vivre sans? Est-ce que c'est pareil?
Alors, il me semble qu'on peut vivre sans la rate. Ça, oui, la blessure de la rate, c'est possible. Par contre, on serait démuni en cas de diminution du volume sanguin.
D'accord.
La rate permet de compenser des diminutions limitées, certes, mais quand même des diminutions conséquentes du volume sanguin en cas de saignement.
Bon, pratique quand même. L'autre exemple qu'on avait, qui était pas super bien choisi finalement pour cette interview, c'était le coccyx. Dans votre ouvrage, on apprend que l'embryon humain forme jusqu'à 9 vertèbres de la queue, mais qu'à la fin, il y en a moins dans le coccyx, de 3 à 5 vertèbres soudées, ou 4 à 6 dans un autre chapitre. Comment ça se fait qu'il y ait des variations du nombre de vertèbres qui se forment, de vertèbres qui restent, et comment ça se soude? Et puis j'ai une question subsidiaire, c'est un peu... comment en fait les vertèbres sont perdues avant l'âge adulte?
Oui, le coccyx est compliqué parce qu'il est formé de plusieurs parties.
D'accord.
Commençons par dire que le coccyx, en tant qu'organe unitaire, il est utile.
Mmh. Il a
une fonction, hein, ce coccyx, mais il est en partie composé du recyclage d'un reste de queue. Voilà, c'est ça qui est amusant. D'abord, commençons par donner l'utilité du coccyx. Premièrement, il sert de point d'appui lorsque l'humain est assis. Les trois points d'appui lorsque vous êtes assis, c'est les deux os du bassin qu'on appelle les ischions. Donc on est assis sur ces deux ischions. Quand on a mal au cul, quand on a fait trop de vélo, on a mal aux ischions, hein, on le sent bien.
Très bien.
Et puis il y a le troisième point, et ça fait un triangle, hein, quand on est assis. Le troisième point, c'est le coccyx précisément.
Ok.
Donc le coccyx fournit l'un des trois points qui nous servent de base lorsqu'on est assis.
Donc, on n'est pas seulement assis sur les fesses, on est assis sur un triangle d'os.
Voilà, c'est ça, exactement. Okay. Ouais. Et le deuxième fonction du coccyx, bah, c'est qu'il sert de point d'attache à des muscles pelviens.
Ok.
Donc il sert quand même en tant que élément du squelette, bien sûr.
Les muscles pelviens, c'est ceux qui agitent le bassin, c'est ça?
Bah c'est les muscles du plancher du bassin, oui, tout à fait.
Ouais, d'accord. Ouais. Okay.
Et alors pour la formation du coccyx, ça c'est plus amusant, c'est qu'en effet à la sixième semaine de développement, l'embryon humain développe 9 vertèbres caudales qui sont nous on peut le voir hein, comme un souvenir de l'époque où les singes avaient une queue. Les grands singes n'ont pas de queue. Hein. Je rappelle que chimpanzés, gorilles, orang-outans, gibbons, humains, tous ces singes-là n'ont pas de queue. Par contre, il faut sortir des anthropoïdes, du groupe que je viens de citer, tous ces singes-là. Il faut sortir du groupe des anthropoïdes, donc reculer à avant moins 25 millions d'années pour trouver des singes à queue. Hein. Donc cette queue, dans le développement de l'embryon humain, elle est un souvenir d'il y a au moins 25 millions d'années. C'est ça l'idée.
D'accord.
Par contre, dans la suite du développement, à la huitième semaine de développement chez l'humain, il y a 4 ou 5 de ces vertèbres caudales qui vont se résorber, qui vont disparaître. Et c'est là qu'on se dit, en effet, une partie de la queue qui se forme à 6 semaines du développement est inutile puisque elle va être détruite. Elle est formée puis détruite ensuite. Par contre, il va rester une base de queue, de 3 à 4 vertèbres. Il va rester, même 4, il va rester une base de queue, un nombre assez parfois variable, hein, qui va s'incorporer au sacrum, qui lui est un os constant et utile. Et la combinaison de ces vertèbres caudales réduites au sacrum va former ce qu'on appelle le coccyx.
Ok, et du coup, on a dit que ça servait à quelque chose, puisque c'est le fameux trépied, les trois points pour pouvoir... Est-ce qu'il y a des gens qui naissent sans coccyx, ou est-ce qu'on peut faire une ablation du coccyx et ça va quand même ?
Pas que je sache. Okay. Je serais prudent, parce que je me suis pas penché précisément sur des naissances sans coccyx. Je vois mal comment ça pourrait se maintenir, parce qu'il y aurait des problèmes dans le soutènement de la partie basse du bassin, et même du tronc d'ailleurs. Mais pas à ma connaissance, pas que je sache. Non.
Donc, ce qui me démontre quand même que c'est un organe important, contrairement à ce qu'on peut s'imaginer en parlant du coccyx, en disant ça sert à rien, si on tape dessus ça fait mal.
Oui. Je crois qu'il y a peut-être une confusion qui s'est peut-être installée parmi nos concitoyens sur cette idée du coccyx inutile. C'est que on a entendu dire que le coccyx était formé à partir d'une queue qui, elle, était devenue inutile. Mais pour le coup, le résultat final du processus, c'est pas un organe inutile. En effet, le coccyx, il est vraiment utile, ouais.
Et du coup, si ça date une perte de queue il y a 25 millions d'années, comment on est arrivé à dater cette perte? On a les fameux trois exemples de l'anatomie comparée, la phylogénie et les fossiles. Mais est-ce que justement, on a des traces de fossiles de cette perte? Est-ce qu'on peut dire que ça a été graduel, ou au contraire, c'est peut-être un peu plus compliqué?
Alors, je ne connais pas de fossiles où on aurait quelque chose d'intermédiaire entre un coccyx et une queue. On a des queues courtes. On peut avoir des queues courtes chez certains singes, notamment chez les macaques. On peut avoir des queues courtes, mais il n'y a pas de truc intermédiaire entre la queue et le coccyx, non.
Donc c'est intéressant, ça a l'air d'être quelque chose de brusque évolutivement tout de même, mais dont on a des réminiscences quand même notamment de l'embryogenèse.
Mais le brusque peut se révéler intermédiaire un jour, on l'a vu bien des fois dans l'histoire de la paléontologie. pendant longtemps, on s'est interrogé sur l'origine des plumes, j'en parle pas trop parce que ça concerne pas l'anatomie humaine pour ce soir, mais aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y avait davantage de diversité de plumes chez les dinosaures théropodes qu'il n'y en a chez les oiseaux actuels. Donc, là où on voyait quelque chose de complètement nouveau, sans intermédiaire entre l'écaille et la plume, au milieu du XXe siècle, au début de ce siècle-ci, aujourd'hui, c'est clair, on a toute la gradation des protoplumes, des semi-plumes, des plumes symétriques, des plumes asymétriques chez les dinosaures théropodes, on a plein d'intermédiaires.
Donc on attend de trouver un fossile d'humain, d'ancienne espèce pris dans l'ombre. J'ai pas beaucoup d'espoir malheureusement, mais ça se trouve, on aurait quelque chose. Il y a une remarque qui était assez intéressante là dans la chatroom. Adot R2 dit « Faut vraiment enlever ce terme de gène poubelle, rien n'est laissé au hasard, c'est juste pas encore connu comme fonction. » J'imagine que vous devriez avoir réaction par rapport à cette affirmation.
Oui, compte tenu du fait que l'ADN poubelle, entre guillemets, est très discuté, il faut rester prudent avant de dire qu'il n'y a pas de fonction. Mm-hmm. On n'arrive pas à délimiter un critère pour l'instant, on ne pourra pas en dire beaucoup plus ce soir parce que on n'a pas vraiment de critères bien délimités pour dire en quoi c'est utile. On a du mal à le voir. Et puis, on n'a pas non plus d'argument fort. Enfin, on peut dire que c'est inutile à défaut d'eux, mais avec cette réserve que fait l'auditeur, c'est-à-dire, n'oublions pas que peut-être un jour, ça peut trouver une fonction. Alors, c'est pas le cas de tous les organes ou toutes les structures inutiles. Typiquement, les pavillons de l'oreille, on sait vraiment que ça ne sert plus, quoi. Ouais. Typiquement, les muscles thoraciques transverses sur la face antérieure de la cage thoracique, à l'intérieur de la cage thoracique, ces muscles-là, transverses, on sait que c'est des muscles avec lesquels les lézards ouvraient leur cage thoracique pour ventiler. Nous, on ventile avec le diaphragme, ces muscles, on sait qu'ils ne servent plus à rien. Bref, il y a quand même des organes pour lesquels on a de bons arguments pour dire qu'ils ne servent plus. Par contre, oui, pour l'ADN poubelle, le débat est toujours ouvert. Ouais. Mais j'irai pas jusqu'à dire que tout a une utilité. Vous voyez, oui, c'est ça que je veux dire, c'est que vraiment, on a de bonnes notions, on a des bonnes données factuelles en paléontologie et en anatomie comparée pour tenir certains organes comme véritablement inutile. Ouais.
Très bien. Alors, avant, il y a une dernière partie qu'on n'a pas encore évoquée, c'est qu'on a fait le c'est comme ça, les atavismes, constant, inconstant, mais on n'a pas parlé des handicaps. Et avant d'évoquer les caractères handicapants de notre anatomie, vous nous avez conseillé d'évoquer un concept important de votre ouvrage qui s'appelle le triangle de Sélacher, j'imagine que je le prononce bien.
Oui, ça c'est la prononciation française, Zeilacher, ouais. En allemand, Zeilacher.
Zeilacher, d'accord. On a quelques Alsaciens dans l'équipe, donc je vais faire un petit peu attention. Ce triangle dit que toute structure présente chez un organisme doit s'expliquer par trois facteurs fonctionnalistes, qui donne les adaptations structurelles et historiques. Alors, qui était ce Zeilacher ? Est-ce que c'est lui qui a créé ce triangle ? Et pourquoi c'est important de le comprendre pour évoquer les handicaps ?
Oui, tout à fait. Alors, Adolf Zeilacher était un paléontologue allemand qui a dessiné ce triangle en disant il y a trois pôles d'explication à un organe. Hein. Il a une partie. On peut mettre à l'intérieur de ce triangle, on peut mettre un organe à un endroit donné selon si c'est plutôt l'adaptation qui l'explique le mieux, ou plutôt l'héritage historique ou la contrainte historique qui l'explique le mieux, ou alors la contrainte de construction. Mmh. Alors typiquement, par exemple, le mamelon masculin dont on a parlé tout à l'heure,
ouais.
Eh bien, il s'explique au mieux par une contrainte de construction. C'est par construction de l'organisme que tout à coup on explique pourquoi ce mamelon apparaît chez l'organisme mâle et pourquoi il n'est pas utile chez l'organisme mâle. C'est pas évidemment le pôle adaptation dans le sens où c'est pas dans le sens de la fonctionnalité, c'est-à-dire l'adaptation dans le sens où pour l'organisme mâle ce téton ne sert pas. Typiquement, l'accouchement dont j'ai parlé tout à l'heure, l'accouchement humain, lui aussi, il est pas tellement du côté de la performance fonctionnelle, il est plutôt du côté de la contrainte historique. C'est vrai que pourquoi on peut dire que c'est pas si performant que ça, c'est qu'il y a eu quand même dans le passé énormément de femmes qui sont mortes de leur accouchement. Mmh. Donc on n'est pas sur le summum de la fonctionnalité, si je peux le dire comme ça. Donc et puis par exemple pour un organe qui serait vraiment performant et adaptatif, on conserve le pouce opposable. Qui reste performant et fonctionnel et adaptatif. Voilà, donc là j'ai placé trois organes à trois extrêmes du triangle, mais sachant qu'au milieu du triangle, il peut y avoir des organes qui s'expliquent un petit peu par les trois composantes. C'est vrai qu'il y a toujours une composante historique, hein, une composante de construction à chaque organe.
Et alors, pour finir par rapport donc à ces handicaps qu'on a commencé d'évoquer, vous parlez donc d'inutiles qui deviennent carrément handicapants, et vous donnez un exemple qui m'a frappé. C'est celui des fausses routes. Donc, c'est lorsqu'on avale de travers, au point de s'étouffer, par exemple, en mangeant, ça nous est tous arrivé. D'après certains scientifiques, ce handicap serait causé par le langage, c'est ça?
Oui, alors, nous sommes la seule espèce animale capable de s'étouffer en mangeant, c'est quand même le comble. C'est, oui. C'est qu'en effet, c'est ce qu'on pourrait appeler une contrainte de construction, c'est-à-dire que les sons que nous sommes capables de produire pour parler, ces sons sont permis par la diversité de ces sons. C'est permis par une musculation pharyngée, la paroi du pharynx, et par un pharynx qui est haut par rapport à d'autres espèces. Et pourquoi le pharynx est-il haut? Parce que le larynx lui-même, qui est juste en dessous, il est bas. On a un larynx plutôt abaissé, et un pharynx qui résonne un peu comme une cathédrale, permettez-moi l'expression, comme l'intérieur d'une cathédrale et avec des parois flexibles, et nous sommes donc capables de faire une diversité de sons remarquable.
Pour clarifier, on peut juste préciser ce que c'est que le pharynx et le larynx pour que tout le monde suive.
Le pharynx, ça va de l'arrière de la langue vers la glotte, et en gros le larynx c'est la glotte et en dessous quoi.
Okay.
Si je peux le dire à grands traits, voilà. Et dans ce pharynx, il y a la partie nasale aussi, donc ça fait vraiment un grand pharynx. Mmh. Alors il y a un prix à la construction de ce grand pharynx, c'est que lorsque le bol alimentaire arrive dans le fond de la bouche, heureusement il y a un arc réflexe qui se produit et qui ferme la trachée par un clapet. La trachée, hein, je rappelle, c'est ce tuyau qui conduit l'air vers les poumons. Et donc, lorsque une bouchée d'aliments arrive dans l'œsophage, et même avant l'œsophage, hein, en arrière de la langue, tout de suite, il y a un arc réflexe qui fait que le clapet de la trachée se ferme et l'aliment est dirigé automatiquement vers l'œsophage. Alors, si jamais il y a une mauvaise coordination pour des raisons de vitesse, si quelqu'un mange trop vite, par exemple, en parlant, ou alors si on a une altération du réflexe à cause de l'alcool ou je ne sais quelle autre cause, la bouchée alimentaire peut mal s'engager, en effet, dans le début de la trachée et obstruer la trachée. Et là, ça devient grave parce que si c'est bloqué, vous risquez l'étouffement et on risque l'asphyxie, en fait. C'est ce qu'on appelle une fausse route. Et ce haut pharynx, donc, c'est en vertu de sa forme et c'est en vertu du larynx qui, corrélativement, est en position basse que ces fausses routes sont possibles alors qu'elles sont impossibles chez tous les autres animaux. Et donc ça, on pourrait dire que c'est le prix à payer, c'est le handicap associé à un avantage. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, les êtres vivants ne sont jamais des perfections, elles sont toujours des compromis. Ils sont toujours des compromis. Les dispositions sont toujours un avantage pour un prix à payer. Enfin, j'accrédite pas tellement ces métaphores économiques que je suis en train de faire moi-même. Je m'autocritique, pardon, mais il y a souvent une balance entre avantages et inconvénients et c'est que s'exprime cette idée. Et donc ce pharynx haut, il est lié à une contrainte de construction liée au développement embryonnaire de l'humain.
D'accord.
J'ai juste signalé que Brusicor était très en forme dans la chatroom et pour donner un petit peu le ton de tous les jeux de mots qu'il nous a fournis, en parlant du larynx et du pharynx, il a dit c'est des organes nécessaires pour faire des sons. Il y avait aussi le dorynx, le rérynx et le myrinx. Voilà. Je vous laisse apprécier. Et donc, pour clore cette émission, nous avons notre traditionnel quote. Et donc, monsieur Lecointre, est-ce que vous avez une citation à nous fournir?
Ah oui. Alors, la citation en question, je vais la lire car avec solennité, car c'est une citation qui a été produite dans un livre de Charles Darwin dont le titre est La filiation de l'homme. Charles Darwin nous dit que, ouvrez les guillemets, donc, l'ignorance engendre le plus souvent la confiance que la connaissance. Ce sont ceux qui savent peu et non ceux qui savent beaucoup qui affirment si positivement que tel ou tel problème ne sera jamais résolu par la science. Fermez les guillemets.
Voilà, je pense qu'on est exactement dans le type de citation, le type de quote que nous faisons dans cette émission, qui vont permettre aux auditrices et aux auditeurs de réfléchir jusqu'à l'émission prochaine. Et il est temps de conclure, tout d'abord en remerciant énormément notre invité, Guillaume Lecointre.
Merci à vous.
Rien n'est plus nécessaire que le superflu, disait le personnage principal du film « La vie est belle ». Heureuse coïncidence, La vie est belle, c'est aussi le titre d'un livre très célèbre de l'évolutionniste Stephen Jay Gould. Et en secouant tout ça, on aura tôt fait, notamment grâce à l'ouvrage de Guillaume Lecointre, à trouver que tout le superflu de nos anatomies nous embellit. En tout cas, c'est sans superflu que je vous invite à servir la science, car c'est notre joie. We'll be right back.